en ce 30 septembre, à Rencontre spirituelle, c'est la fête de Saint Jérôme. Saint Jérôme qui est un saint extrêmement intéressant et curieux. Je commence directement en vous signalant que c'est un saint coléreux, réputé pour sa colère et son mauvais tempérament. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Oui, c'est un saint pour les gens qui ont un peu de, au fond d'eux-mêmes, d'agressivité, de colère. Et l'on dit dans un livre paru récemment, savoir à quel saint se vouer, c'est un guide qui a été établi par Jacques Vessier, il fait l'histoire puis des prières pour faire face aux difficultés de la vie, auprès de 1000 saints. C'était publié il y a à peine 2 ans, je crois, chez Plon Mam, en France. Oui, c'est en 95, c'est l'an dernier. Et puis, c'est un livre rouge que je vous recommande parce que c'est bien sympathique à certains moments. Et justement, pour Saint Jérôme, il est dit ici, sous le chapitre « Colère et agressivité », eh bien, Saint Jérôme, qui est fêté le 30 septembre et qui est mort en 420, et qui a été secrétaire du pape Saint Damas Ier, a consacré 22 ans à la traduction de la Bible en version latine, de la Bible qui avait été établie d'après les textes hébreux et grecs. Et on appelle ça la Vulgate, ça fait autorité dans l'Église. Et bien que charitable, Saint Jérôme, bien que généreux, ce saint remarquable était redouté, dit le texte ici, pour son irascibilité qui l'amenait à injurier, et écoutez bien ça, et même à frapper les personnes avec qui il était en désaccord. Vous direz, il n'était pas très saint, mais oui, c'était un saint quand même. C'est le patron des étudiants, étant donné son esprit d'étude extraordinaire, c'est le patron des instituteurs, qui pourrait être irascible et coléreux de nos jours avec les élèves qu'ils ont parfois, et il est le patron des traducteurs qui ont à se démêler, évidemment, avec des traductions difficiles, lui qui a traduit la Bible. Et on ajoute, il faut l'invoquer quand on est sur le point de céder à la violence. Alors, si vous voulez, on va prier ensemble pour nous tous, moi le premier, qui avons mauvais caractère. Voici Saint Jérôme, et c'est dans le livre que je viens de vous mentionner là. Je vous rappelle le titre, « Savoir à quel saint se vouer », un livre rouge. Saint Jérôme, vous qui étiez tant contrit de vos accès de violence, qu'après vos emportements, vous vous frappiez la poitrine avec une pierre jusqu'à en faire jaillir le sang. Vous savez quelle profonde souffrance fait éprouver le remords de s'être laissé emporter par la colère. C'est pourquoi je vous supplie d'intercéder en ma faveur pour que je puisse acquérir la force de me maîtriser et de me calmer quand je suis sur le point d'être saisi par la fureur. Saint Jérôme, priez pour moi. Saint Jérôme, priez pour nous. C'est pas bête comme prière, et c'est très intéressant parce que moi j'aime bien les saints qui ont des défauts dans un sens, ça me console des miens. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Vous savez que les peintres ont souvent représenté Saint Jérôme. Vous l'avez vu, on le voit dans une grotte, n'est-ce pas, avec un lion, mais souvent, il a la tête qui est illuminée de rayons. Son lion est comme un chat, il est même allongé devant sa table. Et Jérôme semble inspiré. Il y a souvent un sablier dans le tableau pour indiquer que ça a pris du temps pour traduire la Bible. Je pense que ça lui a pris 20 ans. Il y a un chapeau de cardinal, ce qui est complètement aberrant, parce qu'il n'y avait pas de cardinaux dans ce temps-là. Mais on a toujours eu la tendance à mettre ça, je ne sais pas pourquoi. Et puis, quelqu'un me téléphonera probablement pour me le dire. Et puis, quelques livres aussi, évidemment, montrent que c'est un homme d'études. Et puis, les peintres comme Jan van Eyck, ou van Eyck, Dürer aussi, l'ont représenté, quantité d'autres. Il disait de lui-même, « Je suis né chrétien de parents chrétiens. Dès le berceau, j'ai été nourri du lait catholique. » Ce sont ses propres paroles. Et Jérôme reste, pendant 13 ans, l'enfant unique, gâté, de cette famille riche. établi à Stridon, à la frontière de la Yougoslavie, vous savez, au nord de l'Italie, là. Ses parents ont dû lui passer bien des caprices, enfin, gâté, quoi. Ils ne le font même pas baptiser, ils attendent qu'il ait cessé d'être plutôt prétentieux. On les baptisait pas tout jeune encore, hein. Alors Jérôme fréquente d'abord l'école locale, c'est normal. C'est un élève doué, mais bien difficile. Il est indiscipliné. Ça vous doit vous intéresser, les parents qui m'écoutaient, qui avaient des enfants un peu indisciplinés, ça existe. J'ai mangé hier soir avec un bon ami qui a une petite fille et qui est à la maternelle à 2 ans. Elle se fait mordre, et elle se fait taper, des choses absolument incroyables. L'indiscipline de certains enfants de 2-3 ans est incroyable. Alors, il est donc indiscipliné, puis il est espiègle, ce qui n'est pas mauvais signe. Il a une intelligence très vive et une mémoire qu'on jugerait insolente. Il se souvient de tout. Il est de caractère sensible. Et Jérôme, enfant et jeune homme, est un passionné. Mais c'est aussi un ombrageux, un jaloux. Et très tôt, il est envoyé aux grandes écoles de Milan, dans le nord de l'Italie, pas tellement loin de la ville où il est né, à la frontière de la Yougoslavie et de l'Italie. Il se rend plus au sud, à Rome, pour étudier la grammaire, la rhétorique, la philosophie aussi. Rome transforme ce petit provincial. Ça le séduit beaucoup. Lui qui est débarqué de la Dalmatie, en Yougoslavie, c'est la Dalmatie, oui, d'où il vient. Alors il s'initie évidemment au beau langage de Rome. C'est un peu comme les gens qui viennent du sud de la France, ils s'initient au beau langage de Paris, et quittent leur accent du sud qui est pourtant si charmant. Et c'est un peu la même chose un peu partout dans tous les pays du monde. Il lit avec avidité les classiques latins. Ça forge sa phrase, ça forge aussi son esprit. Il critiquera plus tard, d'ailleurs, Cicéron, pour se convaincre de renoncer à lui quand il va se convertir. Le travail acharné n'empêche pas le jeune Jérôme de s'amuser. Il a même eu une vie assez dissolue, il a dû le faire avec la fougue de sa nature violente, des amours faciles sans lendemain. Mais le souvenir de ses mauvaises fréquentations le tiraille. Même quand il est profondément converti et qu'il vit dans un désert, car il va le faire moine. Plus profondes sont ses amitiés quand même, parce qu'il y a eu des amitiés solides. Il apprend à connaître 2 hommes qui deviennent de grands amis pour lui, Bonose et Ruffin. Avec ses camarades, il visite les catacombes. J'en ai visité récemment la catacombe de Sainte-Agnès, c'est passionnant à Rome. Alors il découvre donc Rome, qui est aussi la ville des martyrs. Jérôme a l'âme trop exigeante pour se laisser aller, évidemment, à la facilité, après sa conversion. Et avec Bonose, il se fait inscrire au début du carême de 366, l'an 366, il y a longtemps qu'on vous voit aller, sur la liste des catéchumènes. Puis dans la nuit pascale, il reçoit le baptême des mains du pape Libère. Ce pape qui a régné de 352 à 366, justement, il baptise donc Jérôme l'année de sa propre mort. Il a régné pendant 14 ans. Alors qu'il y avait un antipape arien, Félix II, déjà il y avait des schismes dans l'Église. Alors une nouvelle vie allait commencer. Jérôme part pour, on dirait aujourd'hui la France, il part pour la Gaule. Il aboutit à Trèves. En fait, Trèves, c'est en province rhénane, c'est en Allemagne. La cathédrale, d'ailleurs, est en partie du IVe siècle, donc du temps de Saint Jérôme. Et puis, il reprend ses études, mais il découvre en même temps la vie monastique. Alors, il se décide à rentrer finalement à Aquilée, qui était à l'époque un port florissant. C'est une ville qui a été détruite par Attila en 458. Donc il part finalement pour Aquilée, pour se consacrer à la méditation et à l'ascèse. Il écrit à cette époque, voici le texte, « Il est temps de s'occuper des choses de Dieu. » Il est temps de s'occuper des choses de Dieu. On devrait se dire ça tous les jours. Hein? Et malgré le scepticisme de sa famille, bien, il se met avec ses amis sous la direction de Chromatius et l'étude des Écritures et dans ce groupe, ce qui est le plus important. Et cette période religieuse n'a pas été de longue durée, comme il l'écrit, une bourrasque sabbatie sur la communauté. Puis la communauté était dispersée, alors avec opiniâtreté, décision. C'est un homme de courage, Jérôme, hein? Il a peut-être ses défauts, mais c'est un homme de courage. Alors il subit l'épreuve, mais il ne se décourage pas. Et alors, peu importe, il se met en route pour ce qu'on appelle l'Orient. C'est pas vraiment l'Orient, on appelle ça l'Église orientale souvent, vous savez, c'est le Proche-Orient, où les monastères font fleurir les déserts à l'époque. Un peu comme les Juifs, en arrivant en Israël, ont fait fleurir des déserts il y a quelques années. Il emporte la bibliothèque et les notes qu'il avait amassées à Rome, puis il peste contre les persécuteurs de Rome. Et les persécuteurs de l'Église catholique. Et ce départ est également la rupture avec sa famille, ce qui l'a fait beaucoup souffrir. Il aimait sa famille. Et plus tard, il va écrire à Héliodore, « J'ai connu les déchirements que tu redoutes. » Alors, le séjour dans ce qu'on appelle l'Orient permet à Jérôme de parfaire sa formation biblique à Antioche, de développer ses connaissances de l'hébreu. Il apprend l'hébreu, ce qui était très rare. Et d'Antioche, eh bien, Jérôme s'enfonce dans le désert, peuplé de moines. Il y cherche la solitude, l'éveil, la pénitence, le travail. Il emporte, hélas, sa nature, mon Dieu, ses goûts, puis il est tiraillé entre son esprit et son âme. Il est partagé entre les lettres profanes, les lettres sacrées. Il écrit d'ailleurs, « Quand je lisais les prophètes, je me disais que ces discours me semblent rudes et négligés. » Et après une nuit passée dans l'éveil et les prières, ben, je revenais à Virgile, à Cicéron, à Platon. Alors, un rêve qui s'est plu à dramatiser vient secouer Jérôme, comme il le raconte lui-même pendant un accès de fièvre. Il dit, « Je fus ravi en esprit et entraîné au tribunal du grand juge. J'aperçus une lumière si éblouissante que je n'osais lever les yeux. » Et interrogé sur sa religion, là, Jérôme écrit, « Je suis chrétien. » Voilà ce qu'il avait répondu à cette vision. Et on lui dit, « Tu mens, » répliquait celui qui siégeait. « Tu n'es pas chrétien, tu es cicéronien. » Disciple de Cicéron, quoi. « Où est ton trésor, là est ton cœur. » Alors, justement, le peintre Zurbaran, le grand peintre espagnol, n'est-ce pas, représenté cette scène-là, on voit Jérôme torse nu devant le Christ juge, il est flagellé par les anges qui brandissent des fouets à triple lanière. Et alors, ce solitaire n'était pas au bout de ses peines, hein. Il y a eu d'autres tentations qui l'ont saisi, puis la solitude favorise la rêverie, il est mal nourri, mal logé. Et puis son corps prend la revanche, et là le souvenir des jolies danseuses de Rome l'assiège, il dit, « Oh combien de fois, quand j'étais au désert, dans cette vaste solitude brûlée par les ardeurs du soleil, qui n'offre aux moines qu'une affreuse résidence, écoutez bien ça, j'imaginais être encore au sein des délices romaines avec ces danseuses. Je me voyais mêlé aux danses des jeunes filles, le visage pâli de jeûne, mon corps glacé brûlait de désir, et les feux de la volupté crépitaient dans le corps d'un homme à peu près mort. Je m'en souviens. Souvent je poussais des cris, le jour, la nuit, je ne cessais de frapper ma poitrine, probablement avec une pierre, comme on a dit tout à l'heure. Oh, je mets à l'époque, c'est différent d'aujourd'hui. » Il continue, il termine, « J'en venais à avoir en horreur ma cellule, complice de mes pensées éhontées, irrité et cruel contre moi-même. Je m'enfonçais seul dans le désert. » Et nous verrons tout à l'heure la suite de cette vie extraordinaire. Nous revenons donc à Saint Jérôme, le travail intellectuel le sauve de toutes ces tentations des danseuses qu'il voit apparaître en imagination. Les danseuses qu'il a fréquentées dans sa jeunesse un peu folle. Alors il se jette dans l'étude à corps perdu, puis il apprend l'hébreu. La langue, dit-il, aux mots gutturaux et haletants. Fermez les guillemets. Il l'utilisait sous la conduite d'un juif très instruit. C'est une assaise plus redoutable que celle des moines qui ne font pas grand-chose. Alors il occupe ses loisirs à écrire la vie. On pourrait même dire que c'est plus que des vies, c'est des panégyriques, c'est-à-dire des éloges, un peu trop dithyrambiques, de l'ermite Paul de Thèbes. C'est sans doute Thèbes, là, la capitale de la Thébaïde sur le Nil, hein, en Haute-Égypte. Alors, voici un exemple. Il dit « Je préfère sa tunique usée à la pourpre des rois ». Vous voyez le style. Alors, mais c'est très intéressant à lire quand même, et ces biographies tiennent lieu un peu de roman édifiant pour l'époque. C'est une sorte de... Moi, dans mon jeune temps, on disait Courvadis et Fabiola. Alors, bon, c'est un peu dans le même genre pour ce peuple chrétien d'alors, un peu gourmand de merveilleux. C'est la même chose aujourd'hui, les gens sont gourmands de merveilleux. C'est ce que raconte le père Aman dans un texte dont je m'inspire, ce grand spécialiste des pères de l'Église, le père Aman, un franciscain. Et alors, à la même époque, Jérôme semble avoir rédigé la chronique, où il a traduit puis remanié en partie l'œuvre de l'historien Eusèbe, là, c'est Pamphile Eusèbe, n'est-ce pas, qui est mort en 340, qui était évêque de Césarée en Palestine, et qui était auteur d'une histoire ecclésiastique. C'est un bonhomme très important, Eusèbe, je vous en ai souvent parlé. Et alors, ce livre est fondamental, cette chronique, pour toutes les recherches sur le passé chrétien. Il y mêle volontiers à l'histoire ses souvenirs personnels, ses rancunes. Il y avait noté d'ailleurs le départ de Mélanie l'Ancienne pour Jérusalem, dont je vous avais parlé. Il avait célébré ses vertus. Il but cet éloge quand il se brouille avec elle à propos d'Origène. Hein, Origène, qui est mort en 254, si je me souviens bien, qui était né à Alexandrie, et qui est un père de l'Église grecque, dont je vous parlerai un jour. Alors, les querelles de l'arianisme... dont je vous ai longuement parlé plusieurs fois, les démêlés du schisme d'Antioche viennent à leur tour troubler la paix du désert. Ça divise les moines, alors là les ermites prennent parti pour l'un ou pour l'autre. Ils racontent que, voici le texte, « Roulé dans la cendre et le sac, nous excommunions les évêques ». Il est toujours à l'emporte-pièce, notre Jérôme. Hein? Alors il ironise, hein? Quand il écrit des choses comme ça, il ironise. Finalement, il est exaspéré par ces moines crasseux, ignares et querelleurs. Alors, notre Jérôme fait ses bagages, puis il retourne à Antioche. Il en a marre. L'évêque de la ville, qui est Saint-Paulin d'Antioche, pas Saint-Paulin de Nol dont je vous ai déjà parlé, c'est Saint-Paulin d'Antioche, qui sera martyrisé lui aussi, l'ordonne prêtre. Il accepte à contre-cœur, mais à la condition de pouvoir demeurer fidèle à sa vie de moine, à sa vocation monastique, parce qu'il veut garder toute sa liberté de mouvement. Alors, il se remet à voyager, puis en 380-81, il se trouve à Constantinople, c'est pas à la porte, pour consulter les bibliothèques de la ville qui sont considérables. Et là, il est envoûté par Grégoire de Nazianze, qui est patriarche de Constantinople, qui est mort à 70 ans, en 389. Hein. C'est à Constantinople que le pape va convoquer un concile écuménique en 381, d'ailleurs. C'est Grégoire de Nazianze qui va le présider, lui qui est père de l'Église grecque, Saint Grégoire de Nazianze. Alors donc, Jérôme est envoûté par Grégoire de Nazianze, qui l'enthousiasme pour Origène, dont l'érudition le subjugue littéralement. Il l'appelle le maître de l'Église depuis l'âge apostolique. Il traduit dans sa ferveur 28 de ses homélies sur les prophètes Jérémie et Ézéchiel, avec la même fougue quand même plus tard, il va le trahir. Et entre-temps, bien le pape Damas, Saint Damas premier, c'est un Espagnol Saint Damas, hein? Il a été 22 ans pape, c'est à lui qu'on doit le chant de l'Alléluia pendant la messe, là. C'est au pape Saint Damas. Alors donc, le pape Saint Damas a obtenu de l'empereur la réunion d'un nouveau concile, comme je viens de vous le dire, pour 381, et Jérôme y accompagne l'évêque qui l'ordonnait prêtre, Saint-Paulin d'Antioche, qu'on fête le 31 mai. Il prit donc bagage. Il ramène bibliothèque et manuscrits à Rome. Il a 35 ans, il est à pied d'œuvre pour accomplir une tâche vraiment considérable. Et le pape Damas, Saint-Damas, qui lui est célébré le 11 décembre, est un érudit, un poète. Ben, il estime Saint-Jérôme, il le consulte, il le prend pour secrétaire. Et bientôt, Le pape Damase voit plus grand. Il demande à Jérôme de réviser la traduction latine des évangiles. Une tâche qui va s'étendre finalement à toute la Bible, qui va absorber notre érudit Saint Jérôme pendant 20 ans, comme je vous ai dit plus haut. Où il va mettre au service de l'Église une érudition fantastique qu'il a acquise par des longues années de travail. Et cette traduction va s'appeler, vous le savez, la Vulgate. Hein? Jérôme a le vent en poupe, comme on pourrait dire, et certains parlent même de lui pour devenir pape, imaginez. Du moins, c'est ce qu'il raconte lui-même dans une lettre. Je pense qu'on ne l'aurait jamais élu avec le caractère qu'il avait, ça aurait été épouvantable. Quoi qu'il y ait peut-être eu des papes comme ça, on sait pas, je connais pas toute l'histoire des papes. Alors, entre-temps, bien, cet homme qui était plutôt misogyne devient le conseiller biblique puis le directeur recherché des dames romaines très nobles qui l'apprécient. Il a beau être misogyne, il est capable de se faire aimer des femmes. Alors, il y a Saint Paul autour de lui, Saint Marcel, Saint Eustochie, ou qu'on appelle Eustochium, c'est la fille de Saint Paul. Dans les villas somptueuses du mont Aventin à Rome, il leur explique les Écritures. Et puis, l'austérité de Saint Jérôme attire ces femmes pieuses, hein, ça les rassure. Et cette activité est d'autant plus critiquée, et que cet homme était absolument irréprochable avec les femmes. Il savait se dominer en dépit de sa vie précédente. Et des soupçons se comportent quand même au sujet de Saint Jérôme. Puis il répond, « Je parlerai moins aux femmes si les hommes m'interrogeaient sur l'Écriture. » Parce que c'est les femmes qui l'interrogent sur l'Écriture. Alors il va vers elles. La société élégante de Rome, surtout là, les prêtres mondains et parfumés, comme il dit, de la ville, s'acharne contre ce moine savant. Il ne lui pardonne pas de venir jeter le trouble dans des jeux si bien faits, comme dit le père Aman. Et de surcroît, les obliger à changer la traduction du Nouveau Testament à laquelle la routine les avait accoutumés, parce qu'ils l'avaient apprise par cœur, les livres étaient rares. Hein? Il n'y a pas d'imprimerie, évidemment, à l'époque. Et Saint Jérôme les stigmatise en les traitant d'ânes bipèdes. Ça ne gêne pas pour parler des prêtres comme ça, des ânes bipèdes. Les bonnes grâces du pape Damase à son égard, d'ailleurs, sont un privilège que les courtisans aussi, le clergé de la hiérarchie, ne lui pardonnent pas. Et les torts n'étaient pas tous du même côté. Jérôme gâtait par ses défauts les meilleures causes. Son caractère irascible, je vous l'ai dit, discuta ailleurs. Son ton persifleur lui attirait l'hostilité. Il faut lire d'ailleurs les portraits qu'il fait des clercs mondains. C'est effrayant, vous savez. Ça n'a pas de sens, écrire des choses comme ça sur les prêtres mondains. Bon, j'avais le goût de vous en lire. Je pense que je vais terminer cette demi-heure avec ça. Il dit des prêtres mondains, leurs occupations exclusives, soins du costume, parfums, certitude que leurs pieds ne flottent pas dans une mule avachie, dans une pantoufle avachie ou un soulier avachie. Leurs cheveux bouclés révèlent le passage du fer à friser. C'est terrible. Les bagues scintillent à leurs doigts. On n'a plus de prêtres comme ça, évidemment. Il en est qui vouent leur existence entière à connaître les matrones, les noms, les adresses, les habitudes. Mais il est d'une méchanceté terrible. Et vous allez voir tout à l'heure combien ce Saint Jérôme est demeuré un prêtre formidable. Comme vous voyez, ses portraits sont d'une causticité, ça ne pardonne pas. Puis c'est difficile de les pardonner aussi. Alors il ne se contente pas de tendre la joue, il rend les coups. C'est un homme difficile. Et vous verrez plus tard comment il va terminer dans la douceur, oui, dans la bonté. Notre Saint Jérôme a souvent mauvais caractère, il accuse là, le clergé mondain, pas tout le clergé, simplement le clergé mondain. Et toujours est-il qu'à un moment donné, comme il dirigeait une autre fille de Saint Paul, je vous ai parlé tout à l'heure de Saint Eustochie, sa fille, il y a aussi Blésia, qui meurt prématurément, elle, la fille de Saint Paul, l'amie donc de Saint Jérôme. Et la rumeur publique accuse Saint Jérôme, on dit qu'il l'a tué par les jeûnes. Alors la température monte à Rome, et pour compte de malheur, ben, le pape Damase meurt à son tour, son grand ami. Et le successeur du pape Damas n'a pas les mêmes dispositions à son égard. Et c'est pas nouveau. Le moine Jérôme, la boîte savant, il peste contre ce qu'il appelle la Babylone romaine. Il y a beaucoup de protestants de sectes, de petites sectes. J'hésite à les appeler vraiment des protestants pour ne pas blesser les protestants des grandes églises, qui utilisent souvent ce terme quand ils parlent du Vatican, la Babylone romaine. Et alors, lui-même, Saint Jérôme, utilise ce mot-là. Puis il plie une fois bagage. Il s'en va avec son frère Poligné, il s'embarque encore pour le Proche-Orient, se disant, bien sagement, que, et c'est son texte, « par la bonne et la mauvaise réputation, on parvient finalement au royaume des cieux ». Oui, c'est vrai, dans un sens, Dieu, dans sa miséricorde, pardonne peut-être nos colères et nos choses qui nous font une mauvaise réputation. Alors, Jérôme est suivi de quelques dames de l'aristocratie romaine, avec leurs amis, leurs suivantes, les domestiques, et Jérôme se décide à se fixer en Judée. Son ami Rufin et le monastère de Mélanie l'ont précédé à Jérusalem. Alors, ils décident de pas aller à Jérusalem, ils peuvent plutôt aller à Bethléem. C'est à Bethléem qu'il va s'installer. Il y a 3 monastères de femmes qui ont été construits avec la fortune de Saint Paul. Sa très grande amie, Saint Paul de Bethléem, qui est fêté le 26 janvier. Et Jérôme y ajoute un couvent d'hommes. Surtout des hommes qui viennent d'Occident et qu'il dirige lui-même. Et ses commentaires sont plutôt pauvres pour ce qui est de la doctrine, c'est-à-dire, pardon, nous avons les sermons qu'il a adressés aux moines à l'époque. Il se découvre d'ailleurs comme un maître intérieur. Il y a une piété vigoureuse, doctrine solide. Comme beaucoup d'orateurs sacrés, malheureusement, il ne sait pas finir, c'est trop long. Il s'étonne, d'ailleurs, que ses auditeurs en arrivent à somnoler et à s'endormir. Alors là, il voit d'un œil jaloux là, les grands succès de saint Augustin qui lui prêche sans endormir le monde. Il le raconte d'ailleurs dans une lettre. Et sur ce terrain, il se sent bien battu par saint Augustin qui lui sait prêcher. Il le reconnaît avec un peu d'humeur, d'ailleurs, ça le fâche un peu. Comme le fameux Évagre, il apprend aux moines à copier les manuscrits. Ce qui crée une tradition qui va faire l'honneur de l'Occident. C'est grâce à ces moines qui ont copié des manuscrits que nous avons conservé tant de choses admirables. Et une longue période de production littéraire donc commence, qui va durer plus de 30 ans jusqu'à sa mort. Ce grand Saint Jérôme, ce grand savant, cet érudit, dispose d'une riche bibliothèque. Il a même un fichier considérable, parce qu'il a ramassé des notes partout au cours de ses voyages. Il traduit d'abord l'ensemble des livres de la Bible sur l'hébreu, je vous l'ai signalé, et non plus sur le texte grec des Septante, qui avait été fait par des Juifs. Il est le premier père latin à savoir l'hébreu, le premier père latin à savoir, il a vu que les pères grecs et les pères latins de l'Église. Il établit de la sorte le principe de l'exégèse scientifique. C'est étonnant, hein? Et cette refonte totale va soulever contre Saint Jérôme un déchaînement pour avoir porté la main sur le texte traditionnel. Toujours les querelles au sujet de la tradition. Hein? Pas d'aujourd'hui. Et Saint Augustin lui-même trouve l'entreprise néfaste. Saint Augustin s'oppose un peu à Saint Jérôme là-dessus. Il faut dire que les commentaires de Saint Jérôme sont plutôt pauvres. J'ai ici, moi, son fameux livre, les commentaires sur Jonas, publié dans Sources chrétiennes, c'est le volume 323, a été salué par plusieurs savants du 20e siècle comme le meilleur de Saint Jérôme. C'est pour ça que je l'ai, d'ailleurs. Et je trouve pas ça absolument convaincant tout le temps, à chaque page. Il y a des belles pages, mais c'est pas toujours convaincant. C'est très savant, ces livres-là. On en lit qu'une partie, parce qu'il y a toute une partie qu'on peut pas lire. Puis c'est trop savant. Pour moi, en tous les cas. Et puis alors, donc, les commentaires de Saint Jérôme sont parfois négligés dans leur forme. Saint Jérôme, c'est un érudit et un humaniste. C'est pas un théologien ni un mystique. Il va se brouiller définitivement avec Origène, je vous l'avais dit. quand il sera devenu pleinement puis lucidement lui-même. Mais il y a aussi son tempérament impulsif dont je vous ai parlé au tout début. Ça, ça le dessert. C'est pas facile pour lui. Pas facile pour les autres surtout. Il travaille trop vite aussi. Il ne consacre que deux nuits, mettons, au commentaire d'Abdias. C'est ce qu'il dit. En deux nuits, il a tout fait le commentaire du prophète Abdias, un petit prophète. Deux semaines seulement à commenter l'évangile de Saint Matthieu. Il va vite. Vers la même époque, en 392, ça fait longtemps, ça, hein? Elle a 1600 ans, il écrit son histoire des hommes illustres. Il dresse sur le modèle de Suétone le catalogue, nous dirions peut-être aujourd'hui le dictionnaire biographique des hommes célèbres depuis le Christ. Écoutez bien, ça c'est en quelque sorte la première patrologie de l'université chrétienne écrite en latin. Alors, il accorde aux auteurs le nombre de lignes selon son admiration puis son antipathie. Alors ça commence avec Simon-Pierre, l'apôtre Saint-Pierre, qui ouvre la série, et qui s'achève comment? Qui s'achève bien modestement par Jérôme lui-même. Il n'a jamais péché par excès de modestie, notre cher Saint-Jérôme. Mais le bon Dieu l'a reçu au ciel. Bien oui. La correspondance comprend 117 lettres authentiques. Jérôme est consulté universellement. Saint-Jérôme lui-même lui écrit. On a sa réponse, dont la suffisance aurait pu brouiller ces deux hommes-là à jamais si Saint-Augustin avait eu le même caractère que Jérôme, puis moins d'humilité. « Je te conseille, jeune homme, lui écrit-il, de ne pas venir dans l'arène des Saintes Écritures provoquer un vieillard. » C'est ce que Saint-Jérôme lui écrit. C'est sympathique, au fond. J'aime bien ça. Les lettres dépeignent, évidemment, cet homme, Saint-Jérôme, tour à tour un ascète, un directeur spirituel assez mordant, qui a une ironie un peu cinglante, qui est capable d'émotions et de larmes aussi. C'était un homme sensible. Il y a là des chefs-d'œuvre d'élégance, de vivacité, souvent de violence même. Mais il n'y a pas d'ascèse, hélas, qui aurait pu changer cela. Et Jérôme, dans cette solitude studieuse, lancé dans la lutte par Saint Épiphane, évêque de Salamine, qui fêtait, lui, le 12 mai. C'est un esprit étroit et inquisiteur né, Saint Épiphane. C'est un autre saint au caractère difficile. Qui, dit-il, dans sa boîte à poison où il collectionnait les hérésies, avait donné à Origène le matricule 64. Il condamne un peu tout le monde, ce Saint Épiphane, évêque de Salamine. Il fait à Origène, ce maître d'Alexandrie, un malhonnête procès de tendance qui jette la discorde en Palestine, tant et si bien que Saint Jérôme, brûlant ce qu'il avait adoré, se laisse convaincre qu'il s'en prend à Origène, se brouille avec donc cet évêque de Jérusalem et avec son ami Rufin, qui est très malhabile. Alors une opposition s'en est suivie qui a scandalisé l'Église entière et Saint Augustin le tout premier. À la mort de Rufin en 411, cette mort ne désarme pas notre vieux Jérôme qui s'écrit en l'apprenant. Il s'était disputé avec son ami Rufin. Le scorpion est écrasé. Il y a une haine aveugle, inutile. C'est indigne d'un vieil ascète. Et pourtant, on l'appelle Saint-Jérôme. Mais vous allez voir, les dernières années de Saint-Jérôme sont douloureuses. Sa santé est affaiblie. C'est un ouvrier presque de la dernière heure, dans un sens sur le plan de la sainteté peut-être, de la sainteté totale. Sa vue baisse de plus en plus. Il perd ses amis les plus chers, Saint Paul d'abord qu'il aimait tellement. « Adieu, écrit-il, adieu, Paula. Aide de ta prière, ton vieil ami. » Il demandait à tout le monde de prier pour lui, il se connaissait. Alors il a 57 ans, puis en l'an 410, c'est le tour de Sainte Marcel. Alors il est affecté, comme tout l'Occident, par les événements politiques. Puis la descente des barbares, là, et surtout la chute de Rome en l'an 410. Rome est assiégée. Ma voix me manque. Les sanglots entrecoupent mes paroles, tandis que je dicte. Oh, elle est prise, la ville qui s'empara de l'univers. Alors, au souci du dehors, mais s'ajoute l'infirmité, son commentaire sur le beau livre de la Bible, Ézéchiel, porte cette confidence. C'est écrit, « C'est à la lueur tremblante de ma lampe que je dicte ces quelques pages. L'exégèse me permet de dissiper un peu la tristesse de mon âme, bouleversée. » À ces soucis du dehors s'ajoutent ceux de mes yeux, qui sont affaiblis par l'âge et menacés de cécité. La difficulté de relire à la clarté douteuse d'une lampe des textes hébreux dont les caractères sont si fins qu'on les déchiffre mal à la pleine lumière du jour et du soleil. Alors ils souffrent, et des Sarrasins, c'est-à-dire des Arabes pillards, le menacent. Il n'y a pas de musulmans encore. Il est obligé de fuir précipitamment. En l'an 412. La controverse autour de Pélage qui était un breton, saviez-vous ça, qui enseignait que l'homme peut se sauver par ses seules forces sans l'aide de Dieu, c'était l'erreur de Pélage, mais la controverse pélagienne ranime un moment sa passion. Mais la victoire sur cette hérésie le rassure, il en félicite saint Augustin, c'est saint Augustin qui abat, si on peut dire, par ses arguments, Pélage. Alors, saint Jérôme adresse à saint Augustin sa dernière lettre qui est déjà marquée par la paix. Oui, la paix. La vie l'a dépouillé progressivement, voilà, et lui a donné quelques reculs sur ce qui nous abandonne là, quand on sent la mort venir. Et il écrit, saint Jérôme qui écrit ça, il méprise souvent toute chose, celui qui pense chaque jour à sa mort prochaine. Alors il est impotent, il est aveugle, il est isolé. Le vieux Luther trouve enfin le calme. Et il meurt le 30 septembre 419 ou probablement 420. Ouais. Et il a été tout abandonné à Dieu, qu'il a servi avec un courage énorme. Presque trop, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il était un peu irascible, parce qu'il travaillait trop. Et Jérôme s'est dit, lui-même, à la fois philosophe, rhéteur, grammairien, imaginez, dialecticien, expert en hébreu, en grec et en latin, possesseur de 3 langues, ce qui, pour l'époque et pour un latin, était littéralement inouï. Alors, de l'homme de lettres, il a les qualités et les défauts, on en a parlé un peu. Il étale ça avec tellement de complaisance qu'il semble se libérer de complexes. Il y a le souci d'une certaine élégance littéraire, c'est un classique de la langue, le type de l'humaniste. Sa correspondance est un chef-d'œuvre d'art, une truculence du verbe qui n'est jamais faute de goût. Et jusqu'au bout, il allie à une ascèse qui est franchement rigoureuse quand même, une irritabilité presque maladive, une sensibilité excessive. Je connais des prêtres comme ça, malheureusement, qui sont de bons prêtres par ailleurs. Ils nous mènent les combien de fois, encore plus que les prêtres. Nous sommes irritables et nous ne pratiquons pas vraiment les vertus que nous voudrions tellement pratiquer. Alors il est blessant, lui, dans la polémique. Et s'il triomphe, il écrase l'adversaire. Et s'il perd, bien, il lui reste sa plume qui est trempée dans le vitriol. Il est vaniteux, chatouilleux à la critique et peu disposé à l'accueil et à la sympathie. Mais sa finesse se limite aux lettres et ne s'étend jamais à ses rapports avec les dames romaines qui ont su, elles, apprivoiser cet étrange ascète. Elles ont su le comprendre. Et si saint Jérôme n'a pas appris, en les fréquentant, la douceur évangélique, du moins les femmes, elles, ont compris d'intuition là, que ce bourru était insensible. Et même un tendre. S'il écrase son ami Ruffin de son sarcasme, il pleure comme un père à la mort de sainte Blésille, la fille de sainte Paul, survenue en 383. Et l'homme est d'autant plus émouvant qu'il nous désarme, parce qu'il ne cache pas ses défauts. Il n'a rien de l'onction ecclésiastique, lui. La foi chez saint Jérôme n'a pas caché l'homme, loin de là. Comme le dit si bien le père Aman, il n'a pas de personnage plus haut, il n'y a pas de personnage plus haut en relief, à la physionomie mieux accusée, au verbe plus truculent. Et Dieu se sert de tout bois pour faire du feu. Dieu aura trouvé son compte dans l'ascète de Bethléem. Celui-ci, Saint Jérôme devient lyrique lorsqu'il parle du mystère de Noël et contemple celle en qui la terre a donné son fruit. Les pères latins de l'abbé Ming, la grande patrologie, dans un supplément au volume 2, on a un sermon fantastique sur la nativité du Seigneur. Et il brode un peu au début, puis à un moment donné, il dit « Considérez leur grande pauvreté. Ils vont, en parlant de Marie et de Joseph, ils vont dans une étable. On ne dit pas qu'elle était sur la route. Elle donnait sur un petit sentier à l'écart de la route. Non sur la route de la loi, mais sur le sentier de l'Évangile. Ils étaient sur un sentier écarté. Il ne restait nulle autre place pour la naissance du Seigneur qu'une étable. Une étable où étaient attachés bœufs et ânes. Ah, s'il m'était donné de voir cette étable où Dieu reposa. En réalité, nous avons cru honorer le Christ en enlevant la crèche de boue et en posant une d'argent. Mais elle met de plus de prix celle qui a été emportée. La gentilité mérite l'argent et l'or. La foi chrétienne mérite l'étable de boue. Celui qui est né en cette étable condamne l'or et l'argent. Je ne condamne pas ceux qui ont cru l'honorer avec cette richesse. Je ne condamne pas non plus les gens qui ont sculpté des vases d'or dans le temple. Mais j'admire le Maître, qui, créateur du monde, ne naît pas au milieu d'or et d'argent, mais dans le fumier. Il ajoute, très beau sur l'assomption de l'homme, de la femme. Nous avons longtemps parlé. Nous avons entendu l'enfant vagir dans l'étable. Nous l'avons adoré. Adorons-le tous aujourd'hui. Élevons-le en nos bras. Adorons le Fils de Dieu. Un Dieu puissant qui, longtemps, tonna dans le ciel et ne sauva point. Il vagit et sauva. Il vagit et sauva. Pourquoi vous ai-je dit tout cela? Parce que l'élévation jamais ne sauve, mais l'humilité sauve. Le Fils de Dieu était dans le ciel, il n'était pas adoré. Or il descend sur terre et il est adoré. Il tenait sous sa sujétion le soleil, la lune, les anges, et il n'était pas adoré. Il naît sur terre, homme, homme complet, intégralement homme, afin de guérir la terre entière. Saint Jérôme a mis l'amour du travail puis de l'érudition au service de la Bible, de la Sainte Écriture. Son austérité de vie impose le respect. Et ça doit arrêter la calomnie quand on pense à son mauvais caractère. Son amour de l'Église qui ne badine pas avec l'orthodoxie, parce qu'il veut que cette Église soit orthodoxe, c'est-à-dire franchement catholique et orthodoxe à la fois. C'était une Église unie à l'époque, et tout le monde était uni. Ça s'impose à la postérité, à nos oreilles, à nos yeux, à notre cœur. La miséricorde de Dieu fait le reste à son égard. Nous devons à Saint Jérôme une œuvre qui a rendu d'immenses services à l'Église. De son vivant comme après sa mort, le moine de Bethléem est une lumière de très, très grande qualité. Et puis il demeure le pionnier du travail qu'on appelle exégétique, de cette analyse de la Bible, à condition de le compléter par Origène. Son influence a été grande au Moyen-Âge, qui a accrédité cet étrange anachronisme dont je vous ai parlé au début, qui a fait de Jérôme un cardinal. On le voit représenté, comme je vous ai dit au tout début, je le rappelle pour ceux qui ont manqué le début, on le voit toujours avec un chapeau rouge de cardinal à ses pieds. Il a trouvé grâce auprès des hommes de la Renaissance, donc il l'admirait. C'est comme ça qu'ils lui ont donné ce chapeau de cardinal. Et Érasme, dont je vais vous parler, Érasme, oui, le 25 octobre prochain, le jour anniversaire de Marcel Brisebois. Mais je vais parler de avec lequel j'ai travaillé pendant 30 ans à Radio-Canada. Alors Érasme, l'abbé Marcel Brisebois, hein, directeur du musée d'art contemporain, alors Érasme a publié ses œuvres. Il a été la joie et l'inspiration des peintres du 15e au 18e siècle même. Aucun homme de l'Antiquité ne s'y prêtait mieux. Mais n'oublions jamais que le portrait authentique de l'homme, Saint Jérôme, se trouve dans ses écrits. C'est là qu'il est le vrai Saint Jérôme. À la messe aujourd'hui, la messe de Saint Jérôme, l'Église est vraiment sympathique. Quelle bonne mère. Elle nous fait lire une lecture du livre de Job, chapitre 1, versets 6 à 22. Job accepte l'épreuve avec patience admirable. Il n'est pas coléreux. Hein? Et ça se termine. Alors Job se leva, il déchira son manteau et se rasa la tête. Il se jeta à terre et se prosterna, puis il dit, « Nu, je suis sorti du ventre de ma mère. Nu, j'y retournerai. Le Seigneur avait donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. » Écoutez bien les dernières lignes qui s'appliquent bien à Saint Jérôme. « Au milieu de tous ces malheurs, Job ne commit pas de péché, il n'eut pas la folie de faire des reproches à Dieu. » Et c'est ainsi que Saint Jérôme est mort, dans la paix. Que la vieillesse apporte souvent. Et Saint Jérôme a écrit une belle prière que l'on retrouve dans ce beau livre du Père Aman, encore un autre livre du Père Aman, Prière des premiers chrétiens, dans le livre de poche à la page 262. Tu as éclairé le ciel de lumière, dit après. À la nuit et au jour, tu as commandé d'alterner en paix, leur donnant comme règle une fraternelle amitié. La première met un terme au labeur de notre corps, l'autre, éveillant au travail, aux affaires qui nous tiennent à cœur, nous fuyons les ténèbres, nous nous hâtons vers le jour, que la tristesse d'aucune nuit ne relèvera jamais plus. Seigneur, accorde à mes paupières un sommeil léger, pour que ma voix ne demeure pas longtemps muette. Ta création veillera, pour psalmodier avec les anges. Que mon sommeil, toujours, soit habité de ta présence. Je répète, que mon sommeil, toujours, soit habité de ta présence. Et que la nuit ne retienne rien des souillures du jour passé. Et vous, il était conscient de ses fautes. Et que la nuit ne retienne rien des souillures du jour passé. Que les folies de la nuit ne peuplent pas mes songes. Même séparé du corps, l'Esprit, ô Dieu, te chante. Père et Fils et Saint-Esprit, à toi honneur, gloire et puissance dans les siècles des siècles. Amen. Et je ne saurais terminer sans vous donner quelques maximes de Saint Jérôme. C'est lui qui a dit, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. On ne naît pas chrétien, on le devient. C'est lui, ça. Rien n'est dur à celui qui aime. Que c'est beau. Hein? Quel honneur pour vous, madame, si vous donnez votre fille au Seigneur. Vous serez la belle-mère de Dieu. Ben oui, puisque Dieu devient son gendre, hein? Devient l'époux de sa fille. Je répète donc. Dites ça à des femmes qui se plaignent que leur fille est entrée au monastère. Quel honneur pour vous, madame, si vous donnez votre fille au Seigneur. Vous serez la belle-mère de Dieu. Il y a de l'humour. Hein? On méprise le clerc qui, souvent invité à manger, ne refuse jamais. Priez-vous, vous parlez au Seigneur. Lisez-vous l'Écriture, c'est lui qui vous parle. Ce qui a de la valeur, c'est d'être chrétien, non de le paraître. Ce qui a de la valeur, c'est d'être chrétien, non de le paraître. Ah, c'est dur, ça. Nul ne sera jamais plus humble que le Christ. Il ajoute, il méprise aisément toute vanité, celui qui pense qu'il doit mourir. Et oui, quand on pense à la mort, nous nous rendons bien compte que tout ce que Dieu nous a donné, l'intelligence, les yeux, nos mains, la vie, la santé, l'amour, tout vient de Dieu. Tout est don.